vitriol calciné, pierre infernale, régulus antimony, mercure vif argent.
Il y a ici de quoi empoisonner Paris en quelques heures.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. L'affaire des poisons a-t-elle révélé tous ses mystères? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historienne Agnès Walk. Aujourd'hui, troisième épisode, 1680, la création de la chambre ardente. Face à l'ampleur prise par l'affaire des poisons de plus en plus tentaculaire, le lieutenant de police, Nicolas de la Reynie, rapporte, je cite, que Sa Majesté avait demandé de pénétrer le plus avant possible dans le malheureux commerce des poisons afin d'en couper les racines. Et pour en réduire la publicité, Louis XIV a ordonné une justice spéciale. Chose faite en avril 1679 avec la création de la Chambre Ardente, une cour d'exception spécialement chargée d'instruire et de juger toutes les personnes impliquées dans l'affaire. La Chambre Ardente se tient à Paris, à l'Arsenal, près de la Bastille. Et les audiences, dans une pièce tendue de noir et éclairée par des flambeaux, ce qui explique son nom. Composée d'une dizaine de magistrats de haut rang, ces audiences sont secrètes. La tâche est immense. Lorsque l'affaire se terminera, 3 ans plus tard, plus de 800 séances auront été tenues et plus de 400 personnes inculpées, dont 36 auront été condamnées à mort.
Mais jusqu'où cela peut-il aller? De qui apprendrons-nous encore qu'il a eu recours à des sorciers et a empoisonné son mari, sa femme ou ses enfants?
L'impiété qui gagne comme une gangrène est la cause de toutes ces horreurs. Ces gens se donnent au diable parce qu'ils se sont détournés de Dieu.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
En instituant la chambre ardente, Louis XIV avait exigé que soit rendue, je cite, « une justice exacte, sans aucune distinction de personne, de condition ni de sexe ». De fait, au cours des interrogatoires, les inculpés, poussés par la torture ou par le désir de se couvrir, se mettent à dénoncer à tout va leurs clients, parmi lesquels des noms de la noblesse. Est-il possible que les plus hauts personnages de la cour se soient rendus chez la sinistre voisin? Effaré par les révélations de la devineresse et de ses complices, le roi donne son accord pour que le 22 janvier 1680, la Chambre Ardente lance une série de décrets de prise de corps, autrement dit d'arrestation, sont visés entre autres Olympe Mancini, nièce de Mazarin et amour de jeunesse de Louis XIV, la princesse de Tingry, les duchesses d'Angoulême, de Bouillon, de Vitry, le maréchal-duc de Luxembourg, les ducs de Brissac et de Vendôme, la vicomtesse de Polignac et j'en passe et j'en passe. Il est même question un moment de mettre en prison le poète Jean Racine, soupçonné d'avoir empoisonné sa maîtresse, Mademoiselle du Parc, la comédienne qui avait créé le rôle d'Andromaque. Racine sera finalement mis hors de cause. Olympe Mancini réussit à s'enfuir à temps. Avertie sans doute par le roi de son arrestation imminente, alors qu'un soir elle joue aux cartes avec des amis, elle fait ses bagages, emporte de l'argent et des pierreries, fait atteler son carrosse et la voilà partie dans la nuit en direction des Flandres. Le maréchal de Luxembourg, en revanche, est embastillé. La duchesse de Bouillon, arrêtée elle aussi, nie avec hauteur les accusations. Un contemporain raconte que Madame de Bouillon, interrogée par la Reynie si elle avait vu le diable et comment il était fait, lui aurait répondu « Oui, je l'ai vu, et il est fort laid et fort vilain, comme vous. » Agnès Walk, c'est l'arrestation de la voisin, et donc le 12 mars 1679, on l'arrête à 8h du matin en sortant de la messe. Et c'est donc son arrestation et ses dénonciations qui permettent de révéler ce véritable réseau d'empoisonneurs.
Oui, alors elle vient et je dirais c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que déjà beaucoup de noms sont sortis du chapeau et la voisin, elle a une espèce de logorée et elle va vraiment citer, mais... La ville et la cour, hein, vraiment absolument tout le monde.
Mais elle parle librement ou est-ce qu'elle parle sous la torture? Parce que ça, ça change un peu les choses.
Les deux, ouais. Les deux. On utilise la torture en fait que pratiquement au moment de l'exécution. Donc elle parle librement et en fait on s'aperçoit, et d'ailleurs les juges, mais la Reynie le sent très vite, que tous les inculpés, plus finalement ils citent de noms, plus ils vont être écoutés et donc plus ils reculent l'heure de leur jugement et donc l'heure de leur mort, parce que la voisine sait qu'elle va être exécutée, c'est évident. Hein. C'est aussi une stratégie pour reculer l'heure de la mort, voire même pour qu'il n'y en ait pas, parce que certaines vont réussir l'exploit de s'en sortir, en fait, d'être emprisonnées à vie, mais au moins de s'en sortir. Mais les gens qui sont cités, c'est vraiment des très hauts personnages. Luxembourg, c'est quand même...
Le maréchal duc de Luxembourg.
C'est quand même un des très très grands militaires, et il n'y croit pas, qu'il va être arrêté.
Franchement, il n'y croit pas. Parce qu'il se sent innocent ou bien parce qu'il se sent au-dessus des lois?
Parce qu'il se sent innocent. Ce qui est raconté est tellement incroyable que les gens sont perplexes et se demandent si c'est vrai ou si c'est faux. Et
c'est-à-dire toutes ces accusations, elles sont portées avec des preuves ou uniquement avec des paroles qui sont...
uniquement avec des paroles. Et pour l'histoire de Luxembourg, on va se rendre assez vite compte que la voisine a monté tout un scénario et qu'en réalité, il n'est pas coupable. Il est simplement éventuellement coupable d'aimer l'alchimie et d'essayer de trouver la pierre philosophale et puis de fréquenter ce milieu donc interlope. Il aurait mieux fait effectivement de s'abstenir. Mais bon, il reste quand même un certain temps.
Mais ces personnes sont accusées de quoi? Elles sont accusées d'empoisonner. Donc ça, c'est des crimes, d'homicide. Ou est-ce que il y a plusieurs choses. Le fait de faire de la magie ou voilà, donc ça devient de la sorcellerie.
Exactement.
Et troisième, éventuellement, la voisine, elle pratique des avortements quand
même. Exactement.
Ça, c'est évidemment, c'est une chose qui est interdite à l'époque, mais qui peut en même temps se comprendre dans cette société. Enfin, je veux dire, c'est quand même trois choses différentes.
Oui, alors on les accuse de faire de la sorcellerie, c'est-à-dire d'avoir recours à toutes ces diseuses de bonne aventure pour jeter des sorts à droite et à gauche, des sorts à la fois d'amour et puis de mort, hein, voilà.
Et ça, c'est considéré comme quelque chose de sérieux.
Oui, mais justement, à ce moment-là, on commence à se dire, mais c'est pas possible.
C'est de la superstition.
Ça devient de la superstition. Il y a un effort de rationalisation là, qui apparaît à ce moment-là.
Et donc, dans la justice.
Dans la justice et dans les mentalités. Par exemple, le duc de Luxembourg, mais il tombe vraiment de sa chaise quand il est arrêté, parce qu'il pense que ça ne peut pas être possible.
Bah, concernant, par exemple, Olympe Mancini, donc, qui est la nièce de Mazarin, qui a été un amour de jeunesse de Louis XIV. Est-ce que c'est vrai? Elle dit, en tout cas, la voisine affirme, Olympe Mancini lui avait demandé le moyen de faire mourir la Valière, qui était la jeune maîtresse du roi, par jalousie. Tout ça, c'est vrai? Est-ce qu'on a des preuves?
Non, il n'y a aucune preuve. Il y a non seulement aucune preuve, mais quand on connaît bien cette histoire et on essaie de voir la suite chronologique, on s'aperçoit que la voisine dit des choses qui ne peuvent pas arriver parce qu'elle ne connaît pas la vraie histoire. Donc, ces femmes, si vous voulez, surfent sur des on-dit, des racontars, des ragots, des gossips, hein, voilà, mais qui ne s'avèrent pas être finalement réels, hein, qui sont vraiment que des on-dit. Mais en même temps, comme elles expliquent non seulement qu'il y a de la sorcellerie, c'est-à-dire qu'on convoque le diable, ce qui est quand même vraiment un péché mais mortel, qu'il y a des messes noires, et les messes noires, ça veut dire aussi des sacrifices d'enfants. Et là, apparemment, il y a eu des messes noires. Qu'il y a quand même tout un univers criminel et des choses, mais totalement abjectes, on ne peut pas laisser dire comme ça. Donc on comprend que le roi ait actionné cette chambre ardente, on comprend que les magistrats soient complètement interloqués devant la noirceur de ce qui est dit. C'est quand même des assassinats d'enfants. Il y a des accusations d'infanticide, de meurtre, de magie noire, de convocation du diable. On est pratiquement au sabbat des sorcières.
Il y a quand même des clients pour tout ça. Sorcières sont payées, enfin si on les appelle des sorcières, elles sont payées quand même par quelqu'un. Donc il y a bien des clients.
Il y a des clients, mais des clients, pourquoi? Souvent c'est vraiment de la superstition. Hein, quand finalement on voit à peu près ce que c'est des tables qui tournent, ou bien il y a un abbé qui était était très fort pour essayer de lancer des sorts. Il demandait aux gens d'écrire leur ce qu'ils voulaient, enfin leur vœu le plus cher. Il l'emballait dans un petit papier, il mettait ça au feu et ça explosait parce qu'il avait mis un petit pétard. Et à ce moment-là, les gens étaient complètement
fascinés.
Ah ben oui, c'est fascinant.
Faut dire voilà. La voisine, elle était quand même incroyable. Elle avait une maison dans le quartier Bonne Nouvelle à Paris, oui. Quartier à l'époque populaire dans oui. un jardin. Elle a installé un cabinet de consultation dans une baraque au fond de son jardin. Elle reçoit vêtue d'un espèce de manteau énorme en velours semé d'aigles et elle a derrière, ce qui est un peu vraiment très très glauque, elle a un petit four crématoire où dit-elle, elle a, qui lui a servi à brûler les corps des fœtus et des enfants. Enfin, je sais
oui.
pas.
Alors peut-être qu'elle le faisait. Je pense qu'il y a beaucoup de clients et de clientes qui étaient quand même dupes. Voilà, mais bon, rétrospectivement, ça va être très difficile pour l'historien de dire
si c'est vraiment arrivé et avec qui étaient leurs clientes.
Et avec qui, voilà.
Merci Agnès Walk. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'apparition dans l'affaire des poisons de la propre maîtresse de Louis XIV, la favorite, la marquise de Montespan,